Nous sommes en train de continuer l'étude sur le changement et la transformation que le Seigneur veut faire dans nos vies. Comme vous le savez, j'espère qu'on ne l'oublie pas, Jésus veut nous amener, le Saint-Esprit veut nous amener, le Père, Dieu le Père veut nous amener à ce qu'on soit comme son Fils. Jésus est venu nous donner l'exemple, en plus de d'être venu pour apporter la vérité, nous expliquer les choses, en plus d'être mort sur la croix, mais il nous a donné l'exemple, il nous a montré le chemin dans lequel on devait marcher. Puis les disciples du Seigneur sont appelés à devenir comme lui, à sa ressemblance. Puis pour cela, parce que tout seul, ça aurait été impossible d'entreprendre cela. On était déjà perdu. On ne pouvait pas commencer à ressembler à Jésus par nous-mêmes. Il a fallu que le Seigneur nous donne son Saint-Esprit pour venir changer notre cœur. Puis là, on a demandé pardon. On a dit au Seigneur, on veut changer. On veut devenir comme Jésus. Mais ça se fait pas tout seul. C'est pas un travail qui va se faire tout seul. Ben, Jésus nous a pas donné juste le Saint-Esprit, voyez-vous. Une autre chose qui est importante que Jésus nous a donnée, c'est sa parole. Ben, si on n'aurait pas la Bible, on ne saurait pas quel chemin prendre. Chacun suivrait sa propre voie. Ben, gloire à Dieu, il nous a donné la Bible, la parole de Dieu, puis là-dedans, tu retrouves toutes les informations, les instructions, ses commandements, mais aussi c'est son mode d'emploi, parce qu'il explique comment y arriver dans la Bible. Si on scrute la Bible, si on étudie, on peut sortir plein de sujets qui vont nous expliquer comment est-ce qu'un chrétien devra se comporter, comment est-ce qu'on devra être, c'est quoi le but à atteindre. Puis on a besoin de l'étudier, c'est pour ça qu'on est là le dimanche, puis le mercredi, puis chacun de vous aussi, vous pouvez lire la Bible chez vous dans la semaine pour apprendre à connaître la parole de Dieu. Puis Dieu nous parle, il sert de sa parole pour nous changer. Dans la Bible, on retrouve tout ce qui est nécessaire. Il dit, les Écritures là sont utiles pour enseigner, pour corriger, pour instruire, pour convaincre, pour qu'on arrive à être des hommes de Dieu impliqués, puis qu'on produise les œuvres que Dieu s'attend de nous. Mais dans ces instructions, des fois, on entend des messages qui nous font plaisir, des messages réjouissants, puis des fois, il y a des messages qui sont un peu moins plaisants à entendre, puis des fois, ça s'adresse pas du tout à nous, puis des fois, ça nous vise directement. Fait que quand le chapeau nous fait, il faut le mettre. Parce que Dieu parle. Est-ce qu'on aime ça que Dieu parle? Tantôt, on a loué le Seigneur, puis il y avait une parole. Lynn a une parole, elle a amené une parole du Seigneur. Dieu a parlé. Mais il n'a pas fini, là. Il continue à parler tout le long du message. Puis des fois, il parle dans des choses qu'on sait déjà. Ça fait juste nous renouveler notre pensée pour qu'on l'oublie pas. Mais des fois, ça peut dire, « Ouais, là, il est en train de parler d'un sujet qui s'adresse peut-être à moi. » Puis là, ce qui arrive, c'est... Avons-nous un cœur honnête pour reconnaître notre état devant Dieu? Si Dieu nous parle puis il nous montre quelque chose, puis il nous dit telle affaire dans un enseignement, admettons, est-ce qu'on est assez honnête, qu'on a un cœur assez honnête pour dire, Seigneur, tu es en train de me parler, je veux changer, je veux que tu me changes, puis m'amener à cela. C'est comme quelqu'un qui veut se faire soigner, puis le médecin il dit, prends tel médicament, puis ça va t'aider. Mais est-ce que la personne s'obstine avec le médecin et dit « Je n'en veux pas de ton médicament, je veux pas ta méthode, je ne crois pas ta méthode » ou peu importe, puis on s'obstine avec puis on refuse de se faire soigner. En règle générale, non. Pourquoi? Parce qu'on croit que le médecin, il connaît son affaire, puis quand il nous amène les choses, il nous dit « Fais ça, fais ça, fais ça », mais on le fait, on ne s'obstine pas. Puis souvent, mais on s'en sort. On est soigné. Mais avec Dieu, c'est la même affaire. S'il y a bien quelqu'un qui connaît l'état de l'homme, le cœur de l'homme, parce que Dieu, vous voyez, pas juste en apparence. Moi, je vous regarde, vous avez toute l'air de beaux chrétiens, fidèles à l'apparence extérieure. Vous êtes tous là en train de servir le Seigneur, puis pour moi l'apparence. Mais Dieu, lui, il regarde pas ce qui frappe à l'œil. Il regarde au cœur, à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on pense pendant qu'on est assis là? Qu'est-ce qu'on dit au Seigneur pendant qu'on est assis? Qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on regarde le pasteur avec un sourire, puis on est deux oreilles bouchées pour pas entendre rien? Tu sais, c'est une façon, une manière de voir. Il y en a des gens comme ça. Ils sont là, mais ils s'astinent contre Dieu. Dieu parle, mais ça rentre pas. Mais Dieu, il regarde au cœur. On peut-tu faire confiance au Seigneur dans ses jugements, dans son analyse, dans sa manière de penser? Pensez-vous que Dieu sait de quoi est-ce qu'il parle? S'il y a bien un spécialiste, c'est lui. Dans Proverbe, le chapitre 16, le verset 2, ça dit, « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Tu vas demander à n'importe qui, il va toujours penser qu'il a raison de faire ce qu'il fait, même si c'est du mal. Même quand quelqu'un se revanche, il pense qu'il a raison. Il pense que c'est correct de se revenger parce qu'il s'est fait faire du mal et c'est normal d'y remettre. Tout le monde pense que sa manière d'être est correcte. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est Dieu. Puis lui, s'il met le doigt sur nos problèmes, on n'a pas le choix, il faut les avouer. Parce qu'il sait de quoi est-ce qu'il parle. C'est le spécialiste. Il y a plusieurs passages dans la parole qui nous parlent du sujet qu'on va regarder aujourd'hui. Puis, je ne vise pas personne, je me regarde. Parce que quand c'est arrivé que Jésus était avec ses 11 disciples, puis il était 11 ou les 12, puis Jésus a dit, « L'un de vous me livrera. » Là, le monde a commencé à regarder. Là. Qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez, dans la pensée de tout le monde? Le monde regardait-tu, c'est-tu lui qui va faire ça? C'est-tu lui? Regardait-tu les autres? Non, c'est pas ça que ça dit dans le texte. Ils ont dit, est-ce moi, Seigneur? Parce qu'ils savaient que Jésus, les disciples savaient que Jésus savait les choses. Ils connaissaient c'était qui. Puis les gens, pour regarder les autres, ils ont tout eu peur que ce soit eux autres à qui cette parole-là s'adressait. Ils se sont examinés eux-mêmes pour voir si c'était d'eux autres que ça parle. Fait que quand on entend des vérités de la parole, il ne va pas regarder, oui, ça c'est bon pour lui. Non, c'est pas. Dieu parle pas pour les autres, Dieu parle pour nous-mêmes. Faut être franc puis avouer, Seigneur, c'est vrai que je suis un peu comme ça, ou beaucoup comme ça, si ça nous parle. Si ça nous parle pas puis on se sent pas visé, il n'y a pas de problème, mais on le prend comme information. Le sujet qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'on est en train d'examiner les cœurs, les différents types de cœurs. On a vu déjà les cœurs qui s'égarent, les cœurs qui sont qui courent deux chemins en même temps. Ça, c'est les cœurs partagés. Aujourd'hui, le cœur qu'on va regarder, selon ce qui est révélé dans la parole, la Bible en parle, c'est les cœurs paresseux. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent du paresseux. Mais, comme je vous dis, là, je ne vise pas personne et je ne veux pas que personne regarde les autres. Il faut juste regarder si ça s'adresse à moi. C'est ça qui est le point. Qu'on se pose la question. Dans Proverbe 6:6, ça nous dit, « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies, puis deviens sage. » Dans ce passage-là, le Seigneur veut qu'on considère nos voies. Parce que là, il veut qu'on se compare à une fourmi. Il dit, regarde la fourmi, considère ses voies. Regarde comment est-ce qu'elle marche. Puis là, il veut que nous aussi, on regarde comment est-ce qu'on marche. Pour se comparer, je suis aussi vaillant qu'une fourmi. Je suis travaillant, je suis en train de me préparer pour l'hiver, puis de traiter. Oui, fourmi. Tu regardes aller, ils courent d'un bord puis de l'autre. Hein? Quand ils sortent, là, ils courent d'un bord puis de l'autre, puis ils ramassent des morceaux de qu'ils transportent, là, des morceaux. Des fois, c'est des gros morceaux qui sont... Je pense que ça peut porter jusqu'à 7 fois sa pesanteur à une fourmi. Puis là, des fois même, j'ai vu que ils transportent un gros morceau qui est bien plus pesant que ce qu'ils sont capables, puis ils se mettent à 7-8 fournis ensemble pour traîner le morceau jusqu'à l'uni. C'est travaillant, c'est extraordinaire de voir comment est-ce qu'ils travaillent ensemble. Puis là, il nous dit dans ce passage-là, « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies, puis deviens sage. » Dieu, il veut qu'on analyse ce qu'il y a autour pour se considérer. Il veut qu'on devienne sage. Il veut qu'on comprenne comment ça marche. Il veut qu'on regarde ceux qui sont travaillants. C'est ça qui est le passage. Considère ceux qui travaillent fort, les fourmis, puis deviens sage. Apprends des fourmis. Alors, regarde comment tu travailles. Quand on parle de paresseux, parce que là, dans ce verset-là, là, on parle du sujet qu'on veut aborder, va vers la fourmi paresseux. Quelqu'un qui est paresseux, c'est quelqu'un qui traîne de la patte, qui est lent, qui est mou, qui a pas de ferveur, puis il n'a pas de passion, il n'est pas passionné pour rien, il n'a pas d'énergie dans ce qu'il fait, il se traîne les pattes. Là. Moi, c'est déjà arrivé quand je travaillais à sa construction en électricité, puis on transportait des bundles de tuyaux, là. Mais j'étais avec un gars qui portait son bout, puis moi je portais le mien. Mais ce gars-là, c'est un jeune, puis il était placé par le syndicat, puis il était pas travaillant du tout, paresseux au bout. C'est pas des farces, qu'est-ce que je vous dis là. Je transportais mon bundle, mais en plus, je traînais le gars. Je tirais pour avancer, parce que le gars, il marchait là bien tranquillement. Il voulait étirer le temps. Ça lui prenait du temps de faire tout ce qu'il avait à faire. Fait que quand je transportais le bundle de tuyaux, je tirais sur le gars pour que je le faisais avancer plus vite. Mais ça, là, ça existe des gens comme ça, que tu es obligé de traîner tout le temps parce qu'ils n'ont pas de ferveur, puis d'intérêt, puis le goût de s'y mettre, puis de mettre de l'énergie, puis de faire ce qui a à être fait, comme les fourmis. Puis ça, c'est des gens paresseux. Puis il y en a comme ça. Dieu veut nous parler là-dessus, puis il veut qu'on... Il y a des affaires drôles dans ces exemples-là, puis en même temps, c'est triste, parce que quand tu penses que Dieu a déjà jugé ces situations-là, il a déjà parlé là-dessus, puis il veut qu'on prenne conscience avec ces exemples-là, comme si on considérait la fourmi, puis qu'on devienne sage en tirant des instructions. Mais quand on parle de personnes paresseuses, on regarde pas nécessairement en parlant des personnes malades puis qui sont pas capables parce qu'ils sont malades ou que ceux qui sont très vieux qu'on peut pas leur demander de fournir puis de transporter du tuyau la même chose qu'un autre un jeune qui est en pleine santé. C'est sûr, c'est toujours relatif. C'est sûr qu'en vieillissant, on en fait moins. Puis je veux pas que le monde se sente jugé, mais l'idée c'est est-ce qu'on est paresseux devant Dieu? Ça serait peut-être la question qu'il faut se poser pour ceux qui sont capables. Mais c'est plus pour viser ceux qui ne s'impliquent pas dans le service du Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il parle de ça, c'est qu'il va entraîner toutes ses brebis à être des serviteurs qui produisent ce que Dieu s'attend de nous. On a tout un appel de Dieu différent. Des fois, c'est la même affaire sur des sujets. Puis on a à travailler pour mettre nos dons, nos talents au service du Seigneur. Mais est-ce qu'on est des paresseux à ses yeux? Parce qu'on va le voir dans un verset, Dieu, il regarde puis il analyse. On l'a vu, c'est lui qui pèse les cœurs. Puis il sait si on est capable, si on refuse, si on n'est pas disponible, si on veut pas le faire, si on n'a pas de motivation ou si on pense juste pour qu'est-ce que ça nous rapporte. Plutôt que de le faire librement puis de servir le Seigneur avec joie. Là, il y a d'autres sentences qui ont été dites dans les proverbes puis dans les psaumes. Le paresseux, lui, il aime à rester couché. Il aime pas se lever pour aller travailler. Ça, on voit ça dans Proverbes chapitre 6, le verset 9. Ça nous dit, « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? » Voyez-vous, c'est Dieu, là, c'est comique, puis c'est pas comique. Parce que, oui, c'est drôle qu'on peut faire de la grosse matinée une fois de temps en temps, rien là, quand on est une personne travaillant, mais ils ont des moments qu'on est fatigué, c'est correct. On fait ce qu'on a à faire, puis on est fatigué. Mais pour quelqu'un qui veut pas travailler, il veut pas se lever pour aller travailler, mais Dieu appelle ça paresseux. faut pas gêner d'appeler les choses par leur nom. Aujourd'hui, dans la société, les gens veulent, c'est des filles, puis ils veulent pas se faire dire qu'ils sont des filles, ou sont des gars, ils veulent pas se faire dire qu'ils sont des gars. On veut plus genrer les personnes. Ils veulent dégenrer, parce qu'il y a du monde qui sont filles, puis aimeraient dire qu'ils sont des gars. Ou le contraire, ils veulent se faire transformer. Mais si tu étais un gars, tu étais un gars. Si tu une fille, tu étais une fille. Si tu un paresseux, tu es paresseux. Mais si tu n'aimes pas l'entendre, tu l'es. Pas moins que l'inventer, c'est Dieu qui le dit. Il y a des gens qui sont appelés paresseux. Il y a donc des paresseux. Ils trouvent toutes sortes d'excuses pour pas s'impliquer. Ça, on voit ça dans Proverbe 22, le verset 13. Il dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors, puis je serai tué dans les rues. Fait que le gars qui est paresseux, lui, il se donne des excuses pour pas y aller travailler. Il dit, il y a un lion dehors, c'est dangereux, je vais me faire tuer. Puis il n'a même pas de lion. Des fois, on se fait des peurs avec rien. On n'a pas de raison de penser qu'il va... Oui, il y en a qui s'en donnent comme des excuses, mais c'est pas valable. Tout le monde est dehors cette journée-là, puis tout le monde est en train de travailler, puis il n'y a pas personne qui se fait dévorer par un lion. On ne pourra pas l'apprendre ici au Québec, cet exemple-là, parce que les lions sont très rares. Mais il y a peut-être des chiens dehors, ou des chats, ou des souris. Mais là, si on... L'idée, c'est... Voyez-vous l'idée qu'un paresseux se trouve toutes sortes d'excuses pour pas y aller? Il se rend pas disponible, veut pas s'impliquer, veut pas faire les choses. Il a peur de perdre sa vie. Une autre affaire que les paresseux, que Dieu nous parle sur les paresseux, dans Proverbe, le chapitre 20, le verset 4, il dit, le paresseux, il aime pas faire des efforts, ni pour lui, ni pour les autres. Dans Proverbe 24, ça nous dit, le paresseux, il dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Puis à la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Puis plein de monde se lève pour aller travailler pour froid, pas froid. L'hiver, ici au Québec, on le sait, c'est quoi le froid quand il y a de la glace dans ton windshield. Il y a 1,5 pouce de glace, puis il a tombé 6 pouces de neige par-dessus, ou 8 pouces, ou 12 pouces, ou 24 pouces, puis il faut que tu te lèves pour aller travailler. Pour nous, pour moi qui est chauffeur d'autobus scolaire, si l'école n'est pas fermée, il faut que j'y aille. Puis si, mettons, si je pousse, je dégèle mon auto, puis déneiger l'auto, pelleter l'entrée, aller jusqu'au garage, prendre l'autobus, déneiger l'autobus, réchauffer l'autobus, partir, mais tu vas faire ta journée. Le froid, ça n'arrête pas quelqu'un qui veut travailler. Mais les paresseux, eux autres, veulent pas se lever. Ils veulent pas y aller. Puis ils aimeraient savoir une paye à la fin, mais ils n'auront pas de paye. Voyez-vous, il y a une grande instruction là-dedans. Ça veut dire que si tu veux recevoir quelque chose dans la vie, il faut que tu sois capable de te lever pour être réveillé. Une autre affaire qu'on voit sur les paresseux, c'est que les désirs puis les rêves du paresseux, parce que même le paresseux désirera avoir des affaires. Le paresseux, il rêve, lui aussi, aimerait ça, peut-être, lui aussi, aller dans le sud une semaine ou faire des choses. Il aimerait ça, mais il peut pas. Il dit, ses rêves, puis ses buts, puis ses choses qu'il aimerait, là, hein, mais ça l'embête, puis il arrive jamais à terme. Il peut jamais atteindre ses buts. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'effort pour entreprendre ce qu'il faut pour y arriver. Puis même dans le verset que je vais vous lire, ça le dit encore plus strict, dans Proverbe 21-25, ça dit, « Les désirs du paresseux le tuent. » Ça veut dire que le paresseux, il aimera ça, mais vu qu'il ne se lève pas pour le faire, ça le tue. Tu sais, ça le décourage, ça le jette à terre, il n'est pas capable d'atteindre ses buts parce qu'il est paresseux. Parce que ses mains refusent de travailler. Voyez-vous, là, les petites caractéristiques. Pensez-vous que Dieu nous a parlé de ces choses-là juste parce qu'il voulait qu'on rigole un peu en les écoutant? Moi, je pense que Dieu veut qu'on tire instruction, comme le verset qu'on a premier qu'on a vu. Et il dit, regarde la fourmi. Puis là, il dit, considère ses voies, puis deviens sage. Dieu veut qu'on tire des instructions de tous ces psaumes, de ces proverbes, ces petites paroles-là qui sont dites, qui sont des paroles sages, qui viennent de Dieu. Dieu veut nous enseigner à être vaillants. La Bible dit, elle nous exhorte à être remplis de zèle pour le service du Seigneur. Remplis de zèle, parce que, voyez-vous, on le voit dans Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Voyez-vous, la Bible, elle nous enseigne sur le zèle. Savez-vous, c'est quoi du zèle? Mais c'est le contraire de la paresse. Quelqu'un qui est paresseux ne veut pas bouger, mais quelqu'un qui est zélé, lui, il est empressé, il est passionné, il a le goût de faire les choses, il veut que ça avance, il veut que les choses changent. Il y a de l'empressement, il s'empresse, il y a une hâte, il n'y a pas de paresse, il fait les choses vivement, puis il met des efforts pour y arriver. Puis la Bible nous dit, ayez du zèle. Ça veut dire qu'il veut que nous, on s'équipe, on tire des instructions, mais on change notre attitude, parce que ça s'entretient, cette ferveur-là, dans l'attitude à vouloir que les choses changent, que les choses avancent, ça s'entraîne. Oui, on peut éteindre ça, laisser éteindre ça, puis se laisser aller, puis plus rien faire. Comme qu'on peut se redevenir bouillant, avoir le désir d'avancer, puis de vouloir que les choses changent, puis de vouloir s'impliquer pour que ça change. En hâte, avec empressement, mettre le sérieux, voir la gravité des choses, puis avoir de la diligence. Là, il y a plusieurs idées. Faire des efforts. Dieu dit, fais des efforts pour que les choses changent. Aie du zèle, ça nous dit. Ayez du zèle et non de la paresse. Parce que si tout le peuple de Dieu est paresseux, il n'y a rien de l'œuvre de Dieu qui va se faire. Puis même pour l'évangélisation. Même pour l'édification, on pourrait tout dire, on arrête de faire des réunions pendant X temps. On pourrait arrêter, puis on va être encore des chrétiens, mais des chrétiens paresseux, si on ne fait pas ce qu'on serait supposé de faire. Ça nous dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. Être fervent, là, c'est d'avoir de la ferveur. C'est une excitation. C'est bouillir. Être en feu pour Jésus, être en feu à vouloir le servir, notre cœur, y est-tu bouillant? C'est ça qui est la question. On s'entretient-tu pour qu'il soit bouillant? Puis que l'œuvre de Dieu avance, puis quand les choses avancent, on se réjouit, puis quand on se réjouit, on s'implique encore davantage, puis là, les choses avancent encore plus, puis là, on se réjouit encore plus. Puis ça, quand t'embarques là-dedans, c'est que tu restes bouillant. Être chaud, utiliser une bouillante colère, ça n'est un exemple d'être bouillant, ou une bouillante amour, un bouillant zèle pour faire les choses. Être fervent d'esprit, c'est d'avoir du zèle pour ce qui est bien. Avoir de l'empressement pour faire les choses. Puis être toujours prêt, puis à tout, comme les scouts. Les scouts sont toujours prêts. Mais nous autres, ça, on devrait être comme ça, toujours prêts à faire le bien, pour faire des BA à tous les jours, des bonnes actions. Comme la parole de Dieu nous le dit, on est appelé à imiter Jésus. Hein? C'est ça que Dieu veut faire. Il veut aujourd'hui travailler, on est en train de regarder ce qui pourrait être un obstacle à notre croissance dans le Seigneur pour qu'on devienne comme Jésus. Puis cet obstacle-là, c'est sommes-nous paresseux? Sommes-nous des gens qui font pas d'efforts? On fait pas d'efforts pour prier, on fait pas d'efforts pour lire la Bible, on fait pas d'efforts pour aller à l'église, on fait pas d'efforts pour aller évangéliser quelqu'un, on fait pas d'efforts, mais si on fait pas d'efforts dans rien, si on regarde tout ça, on va dire, ben on est paresseux. Si on ne fait pas les efforts, si on n'est pas bouillant dans cela, dans le désir que Dieu soit glorifié, ben on est peut-être des paresseux. Puis il faut regarder notre vie. On est-tu bouillant pour le Seigneur en train de faire ce qu'on a à faire pour faire avancer les choses? Jésus, lui, quand il était sur la terre, ça nous dit, il cherchait pas à se faire servir, mais à servir les autres. Puis ça, ça fait une différence, parce que un paresseux, lui, il aime se faire servir. Il pense pas à servir les autres. Ça ne tente pas de faire un effort de se lever puis servir les autres. Puis, je dis, c'est sûr qu'on peut pas être toute la gang dans la cuisine en même temps, là, en train de laver la vaisselle, là, puis toute la gang là. Non, on peut pas. Là. C'est sûr qu'il y en a qui y vont plus souvent, mais tout le monde pourra laver la vaisselle de temps en temps. Tout le monde pourra s'impliquer d'une façon ou d'une autre dans les différentes choses. Tout le monde, en réalité, faudra trouver une place où se conserve le Seigneur. C'est ça qu'il faut en arriver. Pour qu'on a reçu des dons, on a reçu des capacités, puis on est tous capables de faire quelque chose. Puis Jésus, hein, c'est notre modèle, lui, il dit qu'il n'est pas venu ici pour être servi. Les disciples n'étaient pas là pour le servir, puis l'élever. Il est venu, lui, pour servir les autres, puis donner sa vie en rançon de plusieurs. Amen. Quel exemple que je pourrais tirer en considérant la vie de Jésus, pour voir comment est-ce que lui, quand il était le temps de faire son ministère, là, il était partout pour aller évangéliser tout le monde, prier pour les gens, prendre autorité, puis de chasser les démons, puis de guérir les malades, puis prêcher la bonne nouvelle. Puis il était dans ses réunions, quand on le voit, qu'il était dans la synagogue, puis il prêchait la parole, puis enseignait. Ça dit, puis il était en action. Il servait les gens en se donnant à fond dans ce qu'il avait à faire, jusqu'à même laver les pieds de ses disciples. L'idée, c'est qu'il était là, disponible, volontaire, il voulait faire les choses parce qu'il sait que Dieu est glorifié dans tout cela. Savez-vous qu'être actif dans le Seigneur, là, être bouillant pour le Seigneur, là, puis de servir le Seigneur dans son œuvre, ça découle du fruit de l'Esprit. C'est parce que tu as le fruit de l'Esprit que tu as le goût de servir. Parce que si tu n'auras pas l'amour pour les autres, là, tu dirais qu'ils s'arrangent tout seuls, qu'ils servent tout seuls, qu'ils ne veulent rien savoir de l'autre. Non, ceux qui servent, là, ceux qui sont impliqués dans l'œuvre du Seigneur, dans n'importe quoi, dans n'importe, c'est parce qu'ils aiment les autres. C'est Dieu qui amène les gens à aimer les autres, puis à être au-devant, puis à essayer de leur rendre ça plus facile, puis que les gens soient heureux, puis que le monde parte de là qu'un sourire. C'est Dieu qui met ça dans leur cœur. Dans Galates 5:13, ça dit, « Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Ça veut dire, moi, j'ai à me rendre par la charité. La charité, là, c'est l'amour produit par le Saint-Esprit. C'est le fruit de l'Esprit. Fait que rendez-vous par l'amour que le Seigneur m'envoie, serviteurs les uns des autres. Ça veut dire, je vais servir le Seigneur parce que je les aime, parce que je suis animé de l'amour, du fruit de l'Esprit, qui est l'amour. Je suis animé de cela, puis là, je veux le montrer que je suis animé de cela en servant les autres. Quand tu es comme ça, là, tu es rendu un serviteur, tu es rendu actif, tu es rendu en train d'aider les autres parce que tu es animé de l'amour de Dieu. Voyez-vous, peut-être que des fois, quand on parlait du paresseux, peut-être qu'il est paresseux et il aime se faire servir parce qu'il n'est pas rempli de l'amour de Dieu. Ça peut être une chose. Le paresseux, c'est sûr qu'on peut l'être même étant non-chrétien, mais tu peux être chrétien et être appelé paresseux. Puis peut-être c'est parce que tu manques d'amour. Demande au Seigneur qu'il te remplisse de son amour, puis il dit, rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Ça veut dire, si j'écoute ce verset-là, ça veut dire, moi, Daniel Poulain, je devrais me rendre rempli de l'amour du Seigneur pour être capable de servir les autres. Mais est-ce que ce verset-là s'adresse juste à Daniel Poulain? C'est ça. C'est à chacun de nous que on devra se dire, est-ce que je suis rempli de l'amour du Seigneur au point que j'aime tellement mes frères et sœurs que je vais vouloir les servir, je vais vouloir leur faire du bien, je vais vouloir faire des choses pour leur rendre la vie plus facile. Puis je pense que c'est à ça qu'on est appelé. Dieu nous appelle à se rendre serviteurs les uns des autres. L'autre verset que je vais vous lire, il fait mal. Je ne dis pas ça qu'on est rendu à ce point-là, parce que la paresse, il y a différents niveaux de paresse, puis je ne veux pas dire qu'il y a du monde paresseux ici, mais Jésus a parlé d'un personnage qui était paresseux, puis il l'a appelé paresseux. Ça n'a pas été drôle pour lui, ce gars-là. Dans Matthieu 25, le verset, à partir du verset 24. Puis je crois, si Dieu, il met ça là, ce passage-là, c'est parce qu'il veut qu'on voit cela, puis on considère cela, puis qu'on s'arrange pour pas être comme ça. Parce que si on est comme ça, ça peut pas s'attendre à voir autre chose que qu'est-ce que lui a eu. Ça nous parle, on la connaît, parce que je les prends souvent, cette parabole-là. C'est la parabole des trois serviteurs, celui qui avait reçu 5 talents, celui qui n'avait reçu 2, puis l'autre n'avait reçu 1. Il y en a qui sont mis, tout de suite sont mis au service des autres. Celui qui n'avait reçu 5, il a mis au service son talent, puis ça s'est multiplié, ses capacités, puis il est rendu à 10 à la fin de sa vie. Celui qui n'avait reçu 2, il a mis ça au service des autres, puis ça l'a multiplié, il est rendu à 4 à la fin de sa vie. Puis là, on parle de celui qui n'avait reçu 1, que lui a enterré son talent. Il l'a pas fait fructifier. On va aller lire ce passage-là. Celui qui avait reçu qu'un talent, il s'approcha ensuite, puis il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où ce que t'as pas semé, tu amasses où ce que t'as pas vanné. J'ai eu peur. » Lui, il voyait un lion dehors. « J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Mais son maître lui répondit, « Seigneur, non, pas Seigneur, serviteur, méchant et paresseux. » Il se fait traiter de paresseux parce qu'il n'a pas mis son talent au service pour le faire multiplier. « Tu savais que je moissonne où j'ai pas semé, que j'amasse que j'ai pas vanné. » Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, puis à mon retour, je retirerai de ce qui est à moi avec un intérêt. Voyez-vous, comme que je disais tantôt, le problème de ce personnage-là, c'est qu'il a reçu du Seigneur, il était un serviteur du Seigneur. Mais ça nous dit qu'il y a eu des comptes à rendre à la fin de sa vie. Des fois, je dis pas ça pour, je vise pas personne, mais est-ce qu'on analyse notre vie de façon à savoir qu'on va avoir des comptes à rendre à la fin de notre vie? Chacun de nous, on va avoir des comptes à rendre. On va être analysé par le Seigneur, puis on va être appelé soit comme les autres, bon et fidèle serviteur, t'as été fidèle en peu de choses, on va te confier beaucoup, ou appelé comme une personne qui est paresseuse, puis se fait traiter de paresseux, puis il y a eu des conséquences de le fait d'être paresseux. Au verset 28, ça dit, « Ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui en a 10, car on donnera à celui qui a, puis il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Puis le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Aïe, aïe. Quand on est paresseux, si on se fait appeler paresseux aux yeux de Dieu, là, on n'a pas fait du tout ce que Dieu s'attendait de nous, mais faut pas s'attendre à avoir des récompenses à la fin de notre vie. Les récompenses sont pour ceux qui travaillent. Il dit, je veux avoir de l'intérêt de ce que je t'ai laissé. Il veut que ça se multiplie, il veut que ça rapporte. Dieu nous a donné déjà le Saint-Esprit, sa parole, il a donné tout ce qu'on a autour, l'Église, on a les frères et sœurs, on a tout pour grandir puis servir. Moi, je pense pas qu'on a raison d'être paresseux avec tout ce qu'on entend. On sert le Seigneur avec ce qu'on a puis ce que nous sommes. On n'a pas les mêmes talents, mais on sert le Seigneur. Mais pour quelqu'un qui refuse d'être là, qui refuse de mettre au service des autres, il veut pas vivre dans la charité pour être au service des frères et sœurs. Il veut vivre sa vie à l'écart, il enterre son talent. Mais il va se faire enlever ce qu'il a reçu du Seigneur, puis il va se faire jeter dehors, ce qui va avoir des pleurs, des grincements dedans. C'est pour ça que quand on parle du Seigneur à quelqu'un, puis quelqu'un il accepte Jésus, il reçoit tout pour mener une vie qui porte du fruit pour Dieu. Mais Dieu veut que cette personne-là reste connectée avec l'Église, puis qu'elle puisse porter du fruit, mettre au service des autres ses capacités, ses talents, même si elle en avait juste un, ça l'a remis au service des autres, elle fait partie de la gang, puis elle va avoir ses récompenses, puis le Seigneur va être content, il va être heureux à la fin. Mais il faut le faire. C'est ça qui est une preuve de notre amour pour Dieu. En servant les autres. Dieu veut qu'on apprenne à trouver toutes les petites occasions pour servir le Seigneur avec empressement, avec zèle, avec ferveur, avec joie, avec amour, parce qu'on est bouillant pour lui, parce qu'on l'aime, puis on veut lui montrer qu'on l'aime. On se donne pour les autres, comme Jésus s'est donné pour nous. Il a donné sa vie en rançon. Mais nous aussi, on doit donner notre vie pour les frères. Ça, c'est un verset, ça. Nous devons donner notre vie pour les frères. Puis c'est par là que Dieu voit si on est vraiment des chrétiens qui aiment Jésus. On est-tu là pour ses frères et sœurs? La recette pour devenir des serviteurs qui portent beaucoup de fruits, c'est la prière. Faut le demander au Seigneur. Ça se peut que dans notre vie, on est paresseux. Ça se peut que dans notre vie, on a peur de tout puis de rien. On a peur de faire quoi que ce soit parce qu'on a peur de faire rire de nous autres. On a peur de pas être capable. On a peur de toutes sortes d'affaires que ça a cloué des gens pour dire, il y a un lion dehors, j'ai peur, moi je peux pas rien faire. Non. Quand tu es en Jésus, là, Jésus veut t'enlever tes peurs. Il dit pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, d'amour, de sagesse. Dieu veut nous donner ce qu'il faut pour qu'on soit au service de Dieu dans son royaume. Fait que si on a un cœur qui est paresseux à la base, paresseux dans tous les exemples que j'ai donnés, qu'on n'a pas le goût de se lever, on n'a pas le goût de rien faire, on aime ça se faire servir, on veut pas y aller travailler, on n'a pas de ferveur. Mais le remède à ça, quand tu es chrétien, prie. Prie. Amen. Demande à Dieu qu'il change ça, puis il va le faire. C'est ça qui est le plus extraordinaire. Peu importe l'état où on était avant de venir au Seigneur, quand tu es en Jésus, tu as la possibilité d'être changé complètement. Pas parce que tu vas être meilleur toi-même, par toi-même, non. C'est lui qui va faire ce qui a à être fait, ce qui a besoin d'être fait pour que tu y arrives. Tu as juste besoin d'y dire que tu es paresseux, puis demander pardon, puis demander de te rendre zélé, puis il va le faire. Il va changer ta vie. C'est ça qui est le secret. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 9. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où on est informé, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Les apôtres, là, ils savaient que tout change que par la prière. Quand ils ont vu que les gens de l'église, de la ville de Colosse se sont convertis, bien là, ils se sont mis à prier pour eux autres. Puis là, il demandait dans leur prière que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur puis de lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres puis croissant par la connaissance de Dieu. Voyez-vous ce que ça prend à quelqu'un pour grandir, pour croître, pour porter du fruit, pour marcher d'une manière digne puis entièrement agréable? C'est quoi que ça prend? De la prière. C'est ce que les apôtres ont réalisé, puis c'est ce qu'ils faisaient. Ils priaient pour les gens, pour que les gens soient en feu, puis servent le Seigneur avec empressement, puis ils croissent dans le Seigneur, qu'ils grandissent dans le Seigneur. Pour grandir dans le Seigneur, ça prend l'assistance du Seigneur. Faut que le Saint-Esprit vienne de faire en toi, c'est lui qui va te changer. Faut demander au Seigneur de nous remplir de zèle, puis d'ouvrir des portes pour le service. Même si à la base, on n'est pas une personne qui aime faire quelque chose, parce qu'on était paresseux. Mais si on le demande au Seigneur de nous remplir de son zèle, puis de son feu, de son amour, de sa manière de voir les choses, puis de nous changer, mais il va le faire, puis il va nous ouvrir les portes. Dans Philippiens 2:13, ça dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui peut puis qui va le faire si on le demande. Parce que Dieu veut nous amener à ce qu'on soit comme Jésus. Il sait qu'on ne l'a pas, mais il est capable de nous amener comme cela. Parce qu'il ne nous demandera pas quelque chose qu'on ne pourra pas atteindre. Mais à cause qu'il veut qu'on y arrive, il nous a promis qu'il nous assistera puis que lui va nous transformer pour nous rendre comme Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour tous ces versets-là qui nous parlent sur la paresse, mais par-dessus toute chose, ton désir à vouloir de nous amener à ce qu'on soit comme Jésus. Seigneur, continue la transformation dans nos vies. Viens changer nos pensées. Enlève les peurs, enlève les craintes, enlève les doutes, enlève tout ce qui n'est pas de toi, puis remplis-nous de ton feu. Mais qu'on soit dans une ferveur, être bouillant pour toi, puis qu'on soit rempli d'amour pour tes frères et sœurs, puis qu'on puisse te servir à travers les frères et sœurs, puis le faire avec joie. Seigneur, merci de ce que tu vas faire dans nos vies. Merci, puis on te rend grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen.